Pour tenir nos délais d'1 heure et demie de cours, nous allons lire la Bible en 1 heure et demie. Voilà. Et donc, maintenant que nous avons vu la prière et les anges, nous devons nous interroger sur ce qu'a fait Dieu à partir de cette création, de son être profond qui est la Trinité, un Dieu qui se comprend et qui s'aime. Cette comparaison que reprend beaucoup saint Augustin, le fait que la Trinité s'explique d'une manière plus ou moins maladroite, et c'est l'épisode de cet ange qui dit à saint Augustin qu'il aura mieux, plus vite fait de vider la mer dans un trou dans le sable avec une petite écuelle que de comprendre la Trinité. Cependant, la nature divine, nous pouvons essayer de l'approcher par cette comparaison qui se retrouve d'ailleurs dans l'explication du catéchisme à l'usage des diocèses de France qui avait été fait par le chanoine Quinet, dans l'explication qui avait été faite par Monseigneur Audelan, évêque de Blois, et le chanoine du Plessis, de 1939, aux éditions École et Collège, mais qui ne se trouve plus, hein. Où on compare en effet cette existence de Dieu, cette vie en Dieu, intime de Dieu, au fait que Dieu se comprend et Dieu s'exprime et se dit parce qu'il il est le seul à pouvoir se comprendre totalement, intellectuellement et dans toute sa puissance. Et ce qui fait que cette réflexion qu'il y a en Dieu, comme dit saint Paul, c'est le miroir de sa substance. Et donc Dieu se contemple en lui-même et il exprime une parole unique qui est lui-même et qu'il appelle son Fils, son Verbe. Et de cette expression éternelle qu'il y a en Dieu, de cette parole éternelle de Dieu, jaillit l'Esprit Saint. Et tout ça, non pas de manière successive, mais en un instant éternel et unique, l'Esprit Saint procède de ce Père et de ce Fils qui est Dieu qui s'exprime. Et donc Dieu s'aime, et il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas de contemplation dans un miroir, « Oh que je suis beau », n'est-ce pas, pour caricaturer la Castafiore, « Oh que je suis belle dans ce miroir », n'est-ce pas. Eh bien non, en Dieu, cette beauté, elle est authentique, cette bonté est authentique, et donc il a le droit d'être heureux dans son éternité. Et il a voulu diffuser cette bonté, bonum diffusivum sui, Dieu est diffusif de lui-même, le bien est diffusif de soi, quand on est bon, on veut faire du bien aux autres, et c'est la cause de la création. C'est cette gratuité, cette bonté divine de transmettre l'être et le bonheur. Alors, les atomes ne sont pas particulièrement heureux, mais tous les êtres intelligents, eux, sont heureux. Voyez. Et donc, lorsqu'il crée les anges, il crée des êtres qui peuvent se comprendre et aimer, et comprendre Dieu. Non pas le comprendre totalement, parce qu'il n'y a que Dieu, et comme le dit saint Paul, il n'y a que l'Esprit divin qui puisse saisir toute la profondeur abyssale de Dieu. Mais saint Paul dit également que l'esprit humain aussi peut quand même se saisir lui-même, se comprendre, et les anges, à leur création, contemplent leur propre nature, leur propre intelligence, et entre dans une relation d'amour, de connaissance et d'amour. L'intelligence et la volonté ne sont pas séparées. C'est une séparation dialectique, c'est une séparation d'explication philosophique. L'être comprend et aime. Voyez. Et les anges, donc, entrent tout de suite dans cette relation. Et dans un premier temps, avant l'épreuve des anges, les anges aiment tous Dieu. Ils sont créés dans la grâce. Ils sont créés dans l'amour, les anges. Donc avant qu'il y ait des démons, des esprits au sens restreint du terme, les mauvais esprits, les djinns, hein, comme on peut le trouver dans, même dans la tradition musulmane qui vient de la tradition biblique, eh bien, c'est l'épreuve des anges. Je vous dis que je restreins mon opinion à une opinion, si ce n'est majoritaire, importante dans, chez les théologiens catholiques classiques, c'est le fait que Dieu ait révélé l'incarnation. Voici qu'il fait entrer son premier-né dans le monde. Et les anges, eux, qui avaient admiré la création de la matière, des étoiles, des planètes, de tout le cosmos, la curiosité des bactéries, des insectes, des poissons, des reptiles, des oiseaux, des animaux de toutes sortes, avec une fantaisie étonnante, mais avec des lois très précises, ni le hasard, ni la nécessité, eh bien, les anges sont étonnés de devoir adorer un être humain, un animal, même s'il a un esprit comme eux, ça reste un esprit d'ailleurs engoncé dans un corps animal, et de révéler cette incarnation, je vous disais que la dernière fois, c'était quelque chose qui dépassait leur... véritablement leur intelligence et leur raisonnement, si toutefois on peut parler de raisonnement chez les anges. Et du coup, Lucifer s'est préféré. Il s'est dit, mais Dieu s'incline comme ça, enfin se prend une décision étrange. Et je vous rappelais la dernière fois cette discussion qu'il y a entre théologiens pour savoir si Dieu se serait incarné avec ou sans le péché originel. Vous voyez? Et donc c'est une dispute en règle générale entre les thomistes et les franciscains. Oui, je ne sais pas si les jésuites avaient pris part, je l'ai su. Eh bien, finalement, on peut les renvoyer dos à dos parce que cette incarnation de nos jours, voyez-vous, pour être plus positif, comme on le dit, elle est magnifique, on parle de la Felix Culpa dans la nuit de Pâques, l'heureuse faute qui nous a valu l'incarnation et la rédemption. Parce que, par contre, en effet, l'incarnation est quand même pour racheter le péché, c'est-à-dire l'homme qui entend la tentation de Lucifer et qui l'accepte, qui veut être autonome, indépendant et Dieu. Et actuellement, il y a toute une discussion qu'on saisit même dans le synode pour la jeunesse en ce moment à Rome, où environ 200 évêques sont réunis pour discuter d'un point particulier, comme tous les 2 ans, 4 ans, non, il est 4 ans déjà, je crois, ou c'est 2 ans. Non, Amoris Laetitia, c'était il y a combien de temps? 3 ans ou tous les 3 ans. Je vais amener exposé sur les synodes. Pour un petit groupe, j'ai intérêt à réviser. Et donc, environ 200 évêques et des religieux, des religieuses viennent et discutent d'un point particulier pour conseiller le pape et qui fera, après le synode, une exhortation apostolique post-synodale. C'est un texte qui n'est pas une encyclique, mais qui a une importance magistérielle quand même. Et donc actuellement, il y a un problème de conscience créatrice, c'est-à-dire que l'être humain actuellement, dans cette nature humaine qu'il a, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il y a le vrai, le faux, le bien, le mal, qui est fixé uniquement par lui-même? Et que l'origine de la vie, Dieu, le Créateur, n'a pas donné une morale précise qui conduirait notre vie. Même si nous avons du mal, si nous avons des tentations ou des chutes, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose de naturel et de surnaturel d'ailleurs qui nous viendrait de notre Père? Un peu comme on éduque des enfants. Et l'être humain actuellement, adulte, voudrait dire, eh bien non, si je veux être un homme, je serai un homme, si je veux être une femme, je serai une femme. Vous voyez, c'est un des points de débat qui, par rapport au numérique, par rapport au transhumanisme, par rapport aux manipulations, enfin à la vie moderne qui touche plus particulièrement la jeunesse dans le concubinage, dans la peur du mariage, dans et aussi dans, comment dire, dans la sexualité. Bon. Alors, l'homme créé ainsi et chutant, Dieu lui annonce qu'il va mourir pour peine de sa révolte, de son orgueil. Mais il ne va pas mourir tout de suite. Il donne des conditions. Il dit à la femme qu'elle va souffrir dans son enfantement et qu'elle va être dominée par son mari. Et il dit à l'homme qu'il va souffrir dans son travail, qu'il va, à la sueur de son front, être peiné énormément dans sa vie terrestre et dans le travail qu'il fera. Tandis qu'à Lucifer, il lui dit qu'il rampera. Alors, la première vie d'Adam et Ève, qui sont créées dans le jardin d'Éden entre le Tigre et l'Euphrate, dans un lieu qui est actuellement fermé par un séraphin, un lieu où ils pouvaient vivre au milieu des animaux de cette plaine paisiblement, nus, parce que la nudité, lorsqu'elle n'est pas dans la tentation, est un état ordinaire de l'homme, et nudité dont ils se rendent compte lorsqu'ils pêchent. Qui vous a appris que vous étiez nus? Oui. Et donc, ils s'habillent et ils ont des enfants, et ces premiers enfants, à un moment donné, se jalousent et se tuent. Hein. C'est Abel qui est pieux, simple, vrai, et Caïn qui est compliqué et jaloux, qui voit la prière de son frère, qui lui prie Dieu plutôt contraint, et donc voit la fumée des sacrifices des agneaux offerts par Abel à Dieu pour lui rendre la création, pour le rendre grâce. Cette fumée qui monte vers le ciel, tandis que les récoltes que fait Caïn, il en offre les prémices à Dieu, mais sans cœur, et la fumée rase le sol. Voyez. Eh bien, Caïn finit par surtout détester la bonté de son frère et il le tue. Ce qui fait que Adam et Ève voient le premier mort. Voyez. Et il n'est pas mort de vieillesse ni de maladie, mais il est mort de meurtre. Voyez. Alors, voilà le début de cette Bible. Je vais donc lire avec vous très lentement la Bible. Ça va prendre un quart d'heure normalement. Et vous allez comprendre. Et ensuite, je vous donnerai une explication sur les différents 46 opuscules qui constituent la Bible. Bible, ça veut dire le livre. Et 46 livres dans la Bible, ça serait 46 Bibles dans la livre, dans la Bible. Mais c'est le mot Bible veut dire livre. Et ça vient d'une ville grecque où l'on faisait les premiers manuscrits, les premières. Et donc qui se disputaient sans doute avec l'œuvre des Égyptiens sur papyrus. Et donc, parmi les plus beaux livres manuscrits qu'il y avait à l'époque, c'était d'un Abyblos, donc ça a donné le terme de livre, de Biblos. Eh bien, donc 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est Dieu, et plus particulièrement son Esprit Saint, qui veut qu'il y ait une histoire du salut. Qu'on mette par écrit ce qui s'est passé, aussi bien depuis la création, et là, il y a une véritable lutte entre les théologiens et les exégètes qui considèrent les passages imagés ou les passages historiques et réalistes, et donc la Genèse, l'historicité de la Genèse et du récit de la création, du récit de la vie d'Adam et Ève, d'Abel et Caïn, de la descendance de Caïn jusqu'au déluge, et le fait que la descendance de Caïn ait multiplié les péchés au point que Dieu décide de faire mourir tout le monde. Alors, avec cette dispute de savoir si l'eau a submergé la terre entière ou uniquement la plaine du Tigre et de l'Euphrate. Nous avons bien vu avec l'épisode Sévenol méditerranéen, avec les masses d'air et l'évaporation de la Méditerranée, que les gens n'ont pas l'occasion de partir vite lorsqu'il pleut en 3 heures, ou en 7 heures, ce qu'il pleut en 3 mois. Et toute une ville qui avait eu l'attentat avec le colonel Bertram a été complètement noyée. Mais en quelques instants. Eh bien, imaginez, le déluge, c'est une plaine qui est noyée. Mais si les hommes sont là depuis seulement quelques générations, ils ne sont pas allés très loin, et donc tous les êtres humains sont morts. Ils n'ont pas pu courir pour échapper à l'inondation du déluge, et on peut se contenter de la plaine du Tigre de l'Euphrate pour le déluge, pas forcément la terre entière. Et donc tout cela, ce sont des disputes d'exégètes, c'est-à-dire de commentateurs de la Bible, et c'est la raison pour laquelle l'Église a toujours dit que pour lire la Bible, il faut des guides. Parce qu'il y a de telles disputes sur les interprétations des livres bibliques que si vous lisez la Bible de vous-même, d'abord vous allez vous noyer. Parce qu'il y a, comment dire, en papier Bible, c'est des milliers de pages. Et ce sont des descriptions de la vie humaine et des révélations divines, des messages de prophètes, avec des violences, des guerres, des moments de paix, des moments spirituels, des moments durs, des punitions divines. Si vous le lisez comme ça, vous serez noyé. C'est pour ça qu'il est vrai que l'Église catholique interdisait la lecture de la Bible. C'est tout à fait vrai. Et figurez-vous, encore maintenant, comment ça? Oui. L'Église catholique, dans son enseignement, nous dit qu'on ne peut lire la Bible qu'avec un commentaire. On ne doit pas lire la Bible sans commentaire. Catholique, je précise. Mais ça, c'est l'enseignement clair et net actuel. Ensuite, que des prêtres ou des évêques ne le suivent pas, c'est une chose. Mais actuellement encore, vous ne devez pas lire la Bible sans commentaire. Alors on dit, oh, mais oui, avec les catholiques, pendant des siècles, on était ignorants, on était dépendants du catéchisme des prêtres et tout. C'est-à-dire que quand on a pu lire la Bible directement, ça a été merveilleux. L'Esprit Saint a pu passer directement sans intermédiaire. Oui, ça a fait toutes les sectes qu'on connaît actuellement. Hein. C'est tout. Et donc, entrer dans la Bible, c'est donc saisir les parties historiques et les parties spirituelles, voire très spirituelles. Dans les psaumes, vous avez donc le roi David qui dit que le soleil se lève. Alors vous avez des exégètes qui, du temps de Galilée, vont dire c'est le soleil tourne autour de la terre. Vous n'avez pas à dire que le soleil tourne autour la terre tourne autour du soleil. Mais vous avez le moine Copernic qui dira la même chose sans être inquiété. Sauf que Galilée, lui, voulait qu'on modifie le psaume. Il était très incisif, puis c'était un ami des cardinaux, et c'est un cardinal qui a préfacé un de ses livres qui l'a condamné en tant que pape. Pourquoi? C'est des disputes entre amis. C'est des disputes parce que lui était très prétentieux et disait « ça, il faut le corriger, ça, il faut que vous changiez, tout ça ». Et le pape dit « mais calmez-vous, on peut très bien prendre aussi ce psaume d'une manière imagée ». Et en effet, on peut étudier le fait que la Terre tourne autour du Soleil, mais ne dites pas que la Bible contient des erreurs. Vous voyez? Et donc tout ça, c'était des disputes, et qui montrent bien qu'il faut lire la Bible posément. Mais quand je vais vous lire ce petit résumé de la Bible, figurez-vous qu'il vient de ce qu'on appelle le catéchisme de Saint Pie X. Qu'est-ce que le catéchisme de Saint Pie X? C'est un catéchisme que je vous donnerai très probablement, mais je suis un peu submergé en ce moment, donc j'ai pas. Je vous apporterai une caisse entière pour vous distribuer ce petit catéchisme. C'est une petite merveille, c'est un catéchisme qui a été fait par les prêtres de Rome, par l'évêché de Rome, et qui donc étant l'évêché du pape, le pape a contresigné l'autorisation de l'édition de ce catéchisme local pour les paroisses romaines et suburbicaires, c'est-à-dire celles qui dépendent de l'évêché de Rome comme archevêché. Et donc, si ce n'est pas un catéchisme universel, il est toutefois un catéchisme qui était enseigné dans la ville de Rome avec la bénédiction du pape. Il faudra attendre le catéchisme du cardinal Gasparri pour avoir un catéchisme universel. Il date de 1930, je crois, sauf erreur de ma part. Et donc ce catéchisme du cardinal Gasparri, GASPAZRI, lui a vocation universelle. Mais le catéchisme de l'Église catholique de 1992 est vraiment universel et le pape l'a promulgué en tant que tel. Donc il fait une autorité toute particulière. Il y avait aussi le catéchisme des diocèses de France qui, lui, n'est pas universel, c'était uniquement pour la France et qui a été adopté par de nombreux diocèses. Alors, la Bible et l'histoire sainte, comment est-elle présentée? Il y a des questions-réponses sur la Bible, la parole de Dieu transmise par les prophètes, avec l'inhérence des Écritures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans les Écritures. Et voilà que dans ce catéchisme pour le diocèse de Rome, ils ont mis un résumé de la Bible, de l'Ancien Testament d'ailleurs. Ici, je vous ai donné l'Ancien Testament. Et donc, je vais le lire avec vous, et ensuite on va reprendre les livres qui correspondent. Mais d'abord, on va le lire. Bref résumé de la révélation divine. Premièrement, création du monde et de l'homme. Donc dites-vous bien que c'est la quintessence de l'enseignement catéchétique des prêtres dans le diocèse de Rome. Donc c'est vraiment un résumé, si vous voulez, de toute une théologie, de toute une morale sur des siècles. C'est un petit bijou, et d'ailleurs il y a un passage très intéressant que vous devez connaître. Premièrement, création du monde et de l'homme. Petit 1. Au commencement, Dieu seul était, et rien n'existait en dehors de lui. C'est du catéchisme en même temps, hein? Donc c'est création ex nihilo. Les Grecs considéraient que la matière coexistait avec les dieux. Vous voyez? Tandis que la vérité, c'est que Dieu, pur esprit, lui, existe dans l'éternité, et à un moment donné, le temps commence, parce que la matière est créée. Dieu est en dehors du temps. Et vous pouvez dire, mais combien d'années vous avez vécu avant la création de la matière? Il n'y a pas de temps. Et le temps, c'est le mouvement, nous disent les philosophes. Vous allez me dire que Dieu était immobile? Non. Il a une pensée éternelle, il a une joie éternelle, il a une bonté éternelle. Et c'est une activité unique, extraordinairement dense. Infiniment parfait et heureux en lui-même, il n'avait besoin de rien. Mais, par pure bonté, il voulut créer, c'est-à-dire tirer des êtres du néant, de rien. Il voulut, et aussitôt ils existèrent. Le ciel, c'est-à-dire les étoiles, la matière. Vous voyez, la matière informe, la matière en fusion, qui ensuite se refroidit, qui fait des planètes, des étoiles qui explosent. Vous voyez. Avant le système solaire, vous avez. Le système solaire est un système jeune, paraît-il. Donc, de la matière, de la lumière. Qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est les atomes qui s'entrechoquent, c'est les atomes qui explosent. Dieu a créé un magma incroyable de une diversité d'éléments extraordinaires. La terre. Là, ici, voyez-vous, nous devons descendre vers le système solaire et la planète Terre. Mais ici, c'est un mot qui représente toute matière aussi. Le ciel, la terre, les choses visibles et invisibles. Invisibles, ce sont les purs esprits. Ou l'âme humaine. Quand vous mourrez, vous avez votre âme qui sort du corps. Et ça ne se voit pas. Et pour qu'une âme soit visible et qu'on puisse dire c'est un fantôme, il faut une permission divine. Et c'est une apparence, comment dire, artificielle par l'esprit lui-même, comme les anges, quand ils font une apparence artificielle, parfois bien plus parfaite qu'un mannequin de cire. Et Raphaël a été pendant, je vous le disais la dernière fois, Raphaël a été pendant plusieurs semaines avec Toby Junior et il n'a jamais vu que c'était un automate ou que c'était un mannequin. Quand les anges font une apparence humaine, ils font quelque chose de très parfait. Mais comme je vous le disais la dernière fois, je ne pense pas qu'il y a d'organes à l'intérieur. Création. Les créatures furent produites les unes après les autres dans un ordre merveilleux. La lumière, c'est-à-dire la matière. Dès qu'il y a matière, il y a lumière. Il y a photon, il y a choc entre choc et lumière. La lumière, le firmament et les astres, la concrétion de cette matière, la formation de différents univers. La terre et la mer, ça c'est pour nous, stabilisation pour nous. Et je vous disais la dernière fois qu'il peut y avoir très bien d'autres êtres unis à de la matière dans le cosmos, hein. Des extraterrestres, c'est tout à fait possible. Enfin, perdez pas votre temps à essayer de rentrer en communication avec eux, ou de temps en temps, si vous voulez. Occupons-nous d'abord de notre salut. Enfin, mais il est tout à fait possible, et en effet, ça serait de l'obscurantisme, n'est-ce pas, que de nier que Dieu ait créé d'autres êtres ailleurs. C'est possible. Alors, il se serait incarné aussi, il y aurait un autre Jésus? Dieu ne nous l'a pas révélé parce que ça ne nous concerne pas. Ouais. Donc, la lumière, le firmament et les astres, la terre et la mer, les végétaux et les animaux. Et en dernier lieu, pour couronner la création, l'homme. L'original est en italien, je crois, hein, pas en latin, je pense. Et il fut créé à l'image, donc esprit, et à la ressemblance de Dieu. Dans l'amour et la grâce. Car en son corps formé de terre, ça peut être, comme disait Pilouze, un singe, hein, mais un singe capable de recevoir une âme, un esprit immortel. Et ce singe, entre guillemets, ce mammifère, a fait l'objet d'une création particulière. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, ce sont des sapiens sapiens en fait. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a outils et rites funéraires, ce sont des sapiens sapiens. Alors on vous balance 100 000 ans, 300 000 ans pour faire de l'esbrouf, hein. Mais l'homme, c'est celui qui comprend le monde qui l'entoure. Donc c'est l'outil, l'art et les rites funéraires. Il se doute qu'il y a une vie après la mort. Il y croit. Formé de terre, donc Pidouze admet que ça peut être un grand singe, un grand mammifère, mais Pidouze n'admet pas l'évolutionnisme par le hasard. C'est ça la différence. Donc c'est une espèce de mammifère qui a été prise en Adam et qui a reçu un esprit. Ou c'est une création directe et nouvelle, ou c'est un des mammifères qui existait déjà, parmi les gorilles, sauf que les gorilles ne ressemblent pas du tout à l'homme, hein, au point de vue de l'ADN, et création d'Ève d'Adam, par contre. Et ça, il y a une insistance biblique là-dessus. Il fut créé à l'image et ressemblance de Dieu, car en son corps formé de terre, le Créateur insuffla un esprit immortel, tous les mots sont importants. Par la grâce, il l'éleva à l'état surnaturel et lui donna pour fin, pour but, de jouir de Dieu lui-même dans l'éternité. Nous avons été créés pour être heureux en vivant avec le bonheur lui-même qui est Dieu. Le but de notre existence, ce n'est pas de manger et dormir et de nous reproduire, c'est de nous aimer et d'aimer Dieu. Et par là, y trouver un très grand bonheur, un très grand épanouissement. Et on devrait, avec les êtres spirituels avant Dieu, trouver aussi ce bonheur, si nous nous aimions les uns les autres avec très grande gratuité. Mais celui qui pardonne aux hommes mauvais et méchants qui lui font du mal est très heureux. À chaque fois que vous lui faites du mal, vous l'insultez, vous le diffamez, vous le frappez, tout ça. Seigneur, je lui pardonne. Seigneur, je lui pardonne. Il peut être qu'heureux. Troisième point. Au premier homme qu'il nomma Adam, Dieu donna une compagne. Et là, hein, tirée de son côté. Qu'est-ce que vous voulez? Pour de hautes raisons. Ce fut Ève, la première femme. D'eux est sortie la famille humaine tout entière. On a toujours enseigné ça, et il a fallu la crise de l'enseignement catéchétique pour qu'on l'enseigne plus. Moi, quand j'ai des enfants qui me disent au catéchisme « Non, Adam et Ève, c'est une légende », j'ai un prêtre qui me l'a dit, mes parents me le disent, tout ça, je dis ben, « Je ne vais pas renier ma foi pour pas te choquer ». Non, non, nous sommes tous issus d'Adam et Ève, qu'on soit noir ou jaune ou bleu ou vert, ou blanc. Ah oui, on a les mêmes cellules. On est exactement de la même espèce, parfaitement. Oui. À moins que le bon Dieu ait créé plusieurs couples, mais à ce moment, absolument identiques, à ce moment-là, il faut qu'il nous le dise. Mais il nous a dit que c'était un couple unique. Les mitochondries d'Ève, n'est-ce pas? Dans la cellule, vous avez le cytoplasme et les mitochondries qui sont les usines énergétiques. Elles sont exactement les mêmes. Tout être humain, en Australie et ailleurs. Deuxièmement, chute de l'homme et promesse du Sauveur. Oui? Quand on ne sait pas. C'est l'humilité de l'Église. Il dit, pour de hautes raisons, c'est-à-dire, pourquoi Ève a été créée après Adam? Mais du coup, saint Paul dit que Adam, quand même, précède l'homme et a une, si vous voulez, un tempérament qui fait qu'il est le chef de la femme. Le péché, c'est l'écrasement de la femme. Mais l'homme a l'autorité masculine est naturelle, elle n'est pas pécamineuse. Elle est pécamineuse dans son excès. Et c'est peut-être un des seuls lieux où on peut encore le dire. Et les femmes, elles, ont un tempérament maternel. Même celles qui ne sont pas mariées sont femmes, bien sûr, et pleinement femmes. Les religieuses, les religieux, les célibataires. Et quand vous avez par exemple, si... Mais ce n'est pas un hasard, excusez-moi d'être vraiment macho au dernier degré, mais ce n'est pas un hasard si les assistantes maternelles sont plutôt des femmes, si les institutrices sont plutôt des femmes, si les infirmières sont plutôt des femmes. C'est cette bonté, cette patience féminine. C'est tout. Vous voyez, les hommes peuvent vous faire des cours de mathématiques à des terminales, mais apprendre à lire et à écrire à des enfants de 7 ans, bon, la patience masculine, elle trouve ses limites. Hein. Vous avez de très bons instituteurs. Hein. Voilà. Oui, je suis un affreux intégriste, mais j'assume.